Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers fidèles, chers enfants, qui allez en quelques instants entrer dans la croisade eucharistique ou devenir croisés, quelle belle fête l'Église nous donne aujourd'hui pour célébrer le mystère de la Sainte Eucharistie, le mystère de Jésus-Christ présent au très saint sacrement de l'autel. Dieu est amour. Deus caritas est. La loi de Dieu, c'est de se communiquer, de se donner, de se livrer. Déjà au ciel, dans l'éternité, les trois personnes divines se livrent les unes aux autres. Vous le savez, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Dieu le Père ne retient rien de lui-même, mais se communique tout entier en son Fils, en parlant cette unique parole qui est son Verbe. Et puis à leur tour, le Fils et le Père se regardent d'un regard d'un mutuel amour, et de là procède le Saint-Esprit qui termine le cycle de la Sainte Trinité. Dieu le Père se donne à son Fils, le Père et le Fils se donnent l'un à l'autre. Voilà le grand mystère que les bienheureux du ciel contemplent. Nous, ici-bas, nous le croyons d'une foi ferme, sans pouvoir le comprendre. Eh bien, la Sainte Eucharistie, chers fidèles, chers enfants, contient tout cela, contient ce mystère chrétien du Dieu qui se donne dans la Sainte Trinité. Celui qui communie reçoit le Fils, le Père et le Saint-Esprit. La Sainte Eucharistie contient également le mystère de la Sainte Incarnation. La Sainte Eucharistie contient la passion de notre Seigneur. La Sainte Eucharistie contient le pain de vie. La Sainte Eucharistie réalise la consommation de notre union avec Dieu. Comme le dit Saint Thomas dans le bel hymne de la fête du Très Saint Sacrement. Se nascens dedit socium, convescens in edulium, se moriens in pretium, se regnans dat in premium. Cette strophe de l'hymne au Saint-Sacrement décrit très précisément le quadruple mystère, le quadruple don d'amour de Dieu dans la Sainte Eucharistie. Se nascens dedit socium, mes chers amis, ce qui veut dire en naissant, en venant sur la terre, par la très sainte incarnation, il se donne à nous comme le compagnon de voyage, que nous pouvons prier. Et le premier mot de la devise des croisés, c'est « prie », la prière, spécialement la prière adressée à Jésus hostie, présent au Saint-Sacrement. Ensuite, « convescens in edulium », à la dernière scène, le jeudi saint, pendant le repas qu'il prend avec ses apôtres, il se donne en nourriture pour nos âmes. Et c'est le deuxième mot d'ordre du croisé, communie, reçoit souvent la Sainte Eucharistie comme nourriture de ton âme. Ensuite, c'est moriens in pretium, il se livre à la mort comme le prix du rachat de nos âmes à cause de nos péchés. Alors la devise du croisé sera, comme Jésus, livre-toi, sacrifie-toi. À la communion, à la messe, le croisé recevra la force pour le sacrifice. Et puis enfin, bien chers fidèles, c'est regnans dat in premium. Et régnant dans le ciel, il se donne aux bienheureux comme leur récompense. Et la communion est le gage de cette communion éternelle. C'est l'avant-goût de la communion du ciel. Alors repassons, si vous louez bien, ces quatre points de la devise du croisé. et en même temps ces quatre vérités du mystère de la Sainte Eucharistie. C'est nascens dedit socium, la présence réelle. Il nous a quittés par l'ascension et il reste pourtant parmi nous par la Sainte Eucharistie. Nous ne sommes pas orphelins, il nous envoie le Saint-Esprit et même il est là, vivant, présent réellement parmi nous, comme notre compagnon de route. La présence réelle, c'est la très sainte incarnation continuée. Par l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme. C'est l'invisible qui se rend visible. C'est le Verbe de Dieu qui se fait chair. Voilà. Ça, c'est le mystère de la sainte incarnation. Bien, le mystère de l'Eucharistie s'ajoute à ce premier mystère. C'est la chair qui devient nourriture, qui va se cacher, la chair de Christ qui était visible, qui va devenir invisible, qui va se cacher, se dissimuler sous les apparences du pain. Mais elle est là, présente, cette chair de notre Seigneur, avec, bien sûr, son sang, son âme et sa divinité. Voilà, c'est ce dogme de la présence réelle et substantielle de notre Seigneur de la Sainte Eucharistie que nous croyons à chaque consécration de la messe. Nous disons, mon Dieu, je crois que vous êtes là réellement présent dans la Sainte Eucharistie, avec votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Voilà, devons faire cet acte de foi, le multiplier au cours de notre vie. Et alors, c'est la continuation du mystère de l'incarnation. Jésus est là avec nous pour être prié, pour être adoré à chaque messe, pour être adoré à chaque salut du Très-Saint-Sacrement, pour être adoré à chaque procession de la fête Dieu. Nous allons préparer un triomphe pour notre roi qui est réellement présent, qui ne règne pas seulement dans l'Église, dans la Sainte Eucharistie, mais qu'il répande son règne sur toute la terre, sur tout le monde, dans tous les domaines de l'activité humaine. Nous allons proclamer son droit à régner, le droit de Jésus aussi à régner. Prions pour cela, pour son règne, que votre règne arrive, Jésus aussi, que votre règne arrive dans les cœurs. Deuxièmement, Convescens in edulium. Jeudi saint, au cours de la dernière scène, il se donne en nourriture. Deuxième parole de la devise du croisé, communie, reçoit le pain des anges. Le pain des anges est devenu le pain des hommes. Voilà. Celui que les anges et les saints mangent spirituellement au ciel. Et c'est toute leur joie. Eh bien, il se laisse manger également sur la terre par nos âmes. Il ne s'agit pas de manger les saintes espèces. Ça, c'est matériel, c'est l'extérieur. Il s'agit de manger spirituellement cette nourriture spirituelle. Et voilà le grand moyen que Dieu a inventé, on peut bien le dire, dans sa sagesse, pour se communiquer à nos âmes. Il a voulu se faire manger. Voilà qui est fort, disaient les Juifs. Ces paroles sont trop fortes. Qui peut les entendre? C'est inadmissible, disent les Juifs encore aujourd'hui. Disent encore les protestants, hélas. Disent ceux qui n'ont pas, hélas, la foi catholique. C'est incroyable que Dieu se laisse manger. Hélas, il se trompe. Dieu veut se laisser manger. Voilà le mystère de la communion. Communie. Convescens in edulium. Au cours de ce repas, il s'est donné en nourriture. Il n'y a rien à faire. Notre foi l'affirme. À la communion, nous recevons une nourriture spirituelle. Notre Seigneur devient le pain de nos âmes pour s'unir à nous. Cette communion réalise trois effets selon saint Thomas d'Aquin. D'abord, elle répare nos forces. Ensuite, elle agrandit notre cœur. Et puis, enfin, elle fait croître notre âme en toutes les vertus. Elle répare nos forces parce que nous sommes faibles. Nous avons besoin de cette nourriture divine. Nous sommes faibles, nous avons besoin de cette force divine. La communion, dit saint Pie X, n'est pas la récompense de nos mérites. S'il fallait attendre être un saint pour oser communier, jamais nous n'oserions communier. Mais vous le savez bien, chers fidèles, la communion, c'est le médicament spirituel pour notre faiblesse. Voilà ce que dit saint Augustin et saint Pie X. Alors, communion, osons communier, même si nous avons des péchés véniels sur la conscience. Il est là, justement, pour les effacer, et puis pour nous donner de nouvelles forces. Comme c'est triste de voir tant de chrétiens qui ne s'approchent jamais de la Sainte Communion, ou très rarement. Ils ont peur. Bien sûr, si on a des péchés mortels, il ne faut pas communier. Mais s'il s'agit seulement de péchés véniels, il faut oser aller communier avec la contrition. Notre Seigneur veut se donner. Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jésus veut se livrer à notre âme pour demeurer en nous. Croyons en cette demeure de Jésus dans notre âme après la Sainte Communion. Alors bien sûr, les apparences du pain disparaissent très vite, mais restent. Et pendant ce temps, reste quelques instants à la présence réelle. Et puis ensuite, c'est la présence spirituelle du Seigneur qui se prolonge toute la journée, toute la semaine. Vivre avec notre Seigneur par la Sainte Communion. Prie, communie, sacrifie-toi. Moriens, c'est moriens in pretium. En se donnant à la mort, notre Seigneur se livre en prix pour nos âmes, pour racheter nos âmes, à cause du péché. C'est le mystère de la messe. Et c'est le mystère de la participation à la messe. Quel grand mystère que la Sainte Messe, la messe de toujours. Notre Seigneur a voulu non seulement prolonger sa présence, mais a voulu prolonger son sacrifice et son sacerdoce. C'est ce qu'enseigne le Saint Concile de Trente, mes chers enfants. Et c'est la foi catholique qui nous le dit. Notre Seigneur n'a pas voulu que son sacerdoce s'éteigne après son ascension. Il n'a pas non plus voulu que son sacrifice de la croix, disparaisse. Après son départ au ciel, il a voulu que tout cela se prolonge. Et il a donc pris un moyen. Il a inventé, dans sa sagesse divine, un moyen qui est la Sainte Messe, qui est le sacrement du sacrifice de la croix. Il a réuni le mystère de la croix sous des signes extérieurs qui le contiennent et qui le signifient à la fois. Voilà le mystère de la messe. Quand vous voyez au moment de la consécration, au moment solennel de la consécration, le prêtre penché sur la sainte hostie en prononçant ces paroles « Ceci est mon corps ». Et puis ensuite, quelques instants après, penché sur le calice qui contient le vin, en prononçant ces paroles, ceci est le calice de mon sang, alors vous comprenez d'une certaine manière que ce qui se passe sur l'autel, c'est la reproduction de ce qui s'est passé sur la croix. Sur la croix, le sang s'est séparé du corps de Jésus, sous les fouets, sous les clous, sous la lance du soldat, au moment de sa mort. Le sang s'est échappé du corps de Jésus. Et bien de même, à la messe, il y a une séparation, par les paroles du prêtre, entre le corps et le sang de Jésus. D'un côté, sous l'apparence du pain, il y a le corps de Jésus. Et de l'autre côté, sous l'apparence du vin dans le calice, il y a le sang précieux de notre Seigneur. Voilà. Par la force même des paroles de la consécration. Bien entendu, on vous dira, sous l'apparence du pain, il n'y a pas seulement le corps, il y a aussi le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Tout cela va ensemble. Puisque Jésus, actuellement au ciel, n'a pas d'une manière séparée son corps et son sang, n'est-ce pas? Le Jésus qui est là sur l'autel, c'est le Jésus qui est au ciel. Donc quand il y a le corps du Christ quelque part, il y a nécessairement avec lui son sang, son âme et sa divinité. Et de même dans le calice du prêtre, après la consécration, il n'y a pas seulement le sang de Jésus, il y a également son corps, son âme et sa divinité. Par cette loi de concomitance réelle dont parle la théologie, c'est entendu. Mais il n'empêche que par l'effet des paroles du prêtre, eh bien, le corps de Jésus se lie d'une certaine manière très spéciale à l'apparence du pain. De même que le sang de Jésus se lie d'une manière spéciale à l'apparence du vin. Jésus est présent sous l'apparence du pain par l'intermédiaire de son corps. Jésus tout entier est présent, lié à l'apparence du vin, par l'intermédiaire de son sang. Voilà. Eh bien, c'est cela qui est le sacrement de la passion du Christ. Il y a quelque chose là qui est exprimé, une certaine séparation très mystérieuse, sacramentelle, entre le corps et le sang du Christ, qui exprime, qui signifie, et en même temps qui réalise le renouvellement non sanglant de la passion de Jésus. Voilà, c'est un mystère. Nous pouvons dire seulement, ce n'est pas impossible, ce n'est pas incroyable, ce n'est pas déraisonnable, mais on ne peut rien faire que d'autre que le croire. Voilà, c'est la petite explication que donne la théologie catholique. Ce n'est pas une explication, mais c'est un excès d'explication, parce que ce mystère restera toujours un mystère sur la terre. Alors, Jésus, donc, a découvert ce moyen inventé, on peut bien le dire dans sa sagesse, ce moyen, tout simple, la double consécration, au cours de la messe, pour prolonger son sacrifice. À la messe, comme disait Monseigneur Lefebvre, vous êtes là au pied de l'autel, exactement comme Saint Jean et la très sainte Vierge étaient au pied de la croix. Parce qu'il y a les mêmes réalités sur l'autel que sur la croix. Il y a le même prêtre et la même victime en train de s'offrir à Dieu son Père. Alors, chers enfants, à la messe, nous participons à ce mystère de la croix de Jésus, et en communion à la fin de la messe, nous communions aux souffrances de Jésus. Le croisé de l'hostie reçoit par conséquent, à la messe et à la communion, la force du sacrifice. Sacrifie-toi. Saint Paul faisait cette belle prière. Ô mon Dieu, que je sois configuré au Christ, que je reçoive la communication des souffrances du Christ. Et ainsi, communiant aux souffrances du Christ, nous réjouissons dans l'exultation, dit l'apôtre Saint Paul. Voilà. Parce que par la croix, nous préparons notre ciel. En portant la croix de Jésus, nous préparons notre éternité. Alors le croisé trouve la force de son sacrifice, de ses petits sacrifices quotidiens, petits et grands, dans la messe, dans la sainte communion. Tout chrétien trouve la force du sacrifice, que ce soit les parents chrétiens, que ce soit les prêtres, les religieux, tous, trouvent dans la messe la source de leur sacrifice quotidien, parce qu'ils reçoivent une communication aux souffrances de notre Seigneur. Ils s'assimilent à Jésus souffrant. Le chrétien qui assiste pieusement à la messe s'offre en victime, uni avec la victime du calvaire. Le chrétien qui communie après la messe, eh bien, reçoit cet esprit de sacrifice qui était en notre Seigneur. Enfin, bien chers fidèles, la devise des croisés a pour quatrième mot d'ordre, soit apôtre. Et la quatrième strophe de l'hymne au Saint-Sacrement nous dit ceci. Se regans dat in premium. Régnant au ciel, avec les bienheureux, il se donne à eux comme leur récompense. La communion est le gage de l'union inexprimable entre l'âme et Dieu au ciel. La communion sacramentelle est l'avant-goût de la communion réelle du ciel. Eh oui. Dieu veut se donner, se communiquer d'une façon ineffable à ses bienheureux. Mais déjà, sur la terre, le bon Dieu nous donne un avant-goût de ce que sera la béatitude du ciel. Alors, ne nous privons pas de cet avant-goût. Il ne s'agit pas de sentir, il ne s'agit pas de chercher des jouissances spirituelles, il s'agit de croire à cet avant-goût. Mais quelquefois, le bon Dieu se laisse sentir comme un bon père, il laisse sentir sa tendresse, voilà, et l'âme goûte cet avant-goût du ciel. Cette union qui est d'abord une fusion, comme dit Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, quand elle raconte sa première communion, elle dit, Thérèse avait disparu, Jésus demeurait seul, c'était la fusion, comme la goutte d'eau qui se perd dans l'océan. Elle décrit son âme, au moment de la communion, comme une petite goutte d'eau qui se perd dans l'océan qui est l'âme de Jésus-Christ. Voilà. La communion, c'est une fusion de notre âme dans l'âme de Jésus-Christ. Oui. C'est une fusion de tout notre être en notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement c'est une fusion, mais c'est même une transformation en Jésus. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité l'exprimait très bien dans cette élévation, la Sainte Trinité, quand elle dit, priant Dieu, faites de moi pour Jésus une humanité de surcroît dans laquelle il prolonge tout son mystère. Voilà. Jésus veut que notre âme soit comme son âme prolongée. Nous devons prolonger en nous la vie de Jésus. C'est ça, cette transformation. Nous devenons Jésus-Christ. Par la communion, l'âme du chrétien devient l'âme de Jésus. Le chrétien ne s'appartient plus, il devient un autre Christ. Par la communion, Saint Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Saint Augustin explique que la nourriture que nous prenons chaque jour, la nourriture matérielle, nous la transformons en nous. Nous la faisons notre propre substance. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Et il dit, eh bien, pour la communion, cette nourriture spirituelle qui est le Christ, c'est le contraire. C'est Jésus qui nous transforme en lui. C'est nous qui entrons dans sa vie. Voilà, il faut passer dans la vie de Jésus. C'est ça la communion. Est-ce que vous comprenez cela, chers fidèles? Nous devons passer notre vie à passer dans sa vie. Afin qu'on ne voit plus rien d'autre dans un chrétien que Jésus, que la vie de Jésus lui-même. C'est une transformation. Et puis enfin, il y a la consommation dans l'unité avec Dieu. Avec Dieu et avec tous les bienheureux du ciel et avec tous les bons chrétiens qui communient. C'est la communion des saints. La sainte communion réalise la communion des saints. La sainte communion, dit saint Augustin, réalise l'unité de l'Église. Pour saint Augustin, la sainte Eucharistie, c'est le sacrement de l'unité de l'Église. Il explique cela. La Sainte Eucharistie prend comme élément de base des grains de blé moulus ensemble. Ils sont plusieurs et puis ils deviennent une seule pâte pour devenir le corps du Christ. De même, le vin vient de multiples grains et grappes de raisins broyés ensemble qui deviennent un seul breuvage qui devient par la consécration, le sang du Christ. Donc de plusieurs choses en sort une unique. De même, à la Sainte Communion, les fidèles sont nombreux. Ils communient à un seul corps du Christ. Ils deviennent une seule chose, qui est le corps mystique du Christ. Voilà ce que c'est que ce mystère de la consommation dans la communion des saints. Celui qui communie, communie à Dieu, communie à tous les saints du ciel, à tous les parents qui nous ont quittés, à tous nos êtres chers, tous ceux que nous avons bien connus, qui ont été des saints sur la terre, nous communions à eux, puis nous communions également à tous les chrétiens fidèles qui communient sur la terre. Nous réalisons une unité de charité entre toute l'Église. Mais voyez comme il est nécessaire que cette unité de charité ne soit pas sans l'unité de la foi. À quoi bon aller communier à la même table si l'on est divisé sur la foi? Quelle contradiction pour un chrétien d'oser communier alors qu'il est progressiste ou moderniste et qu'il n'admet pas telle ou telle vérité de la foi. Il contredit sa communion. Il n'y a pas d'union de charité entre les chrétiens s'il n'y a pas d'abord l'unité de la foi. Voilà, bien chers fidèles, en quelques mots, ce mystère de la Sainte Eucharistie qui contient toute la vie chrétienne, tout le mystère chrétien, la Sainte Trinité, la Sainte Incarnation, le Jeudi Saint, le Calvaire, la consommation au ciel, tout cela est contenu dans la Sainte Eucharistie, que nous devons remercier le bon Dieu de ce don qu'il nous fait de tout lui-même à la messe, à la communion, que nous devons tenir pour précieux ce don et communier fréquemment avec une âme purifiée par le sacrement de pénitence, pour devenir d'autres Christ, d'autres Jésus, pour qu'on ne voit plus en nous une autre personne que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons cette grâce par l'intercession de tous les saints, et spécialement de la très sainte Vierge Marie et de saint Jean. Il n'est pas inutile de voir la très sainte Vierge s'unissant à la messe célébrée par l'apôtre saint Jean. Souvent, elle a dû communier à la messe de l'apôtre Saint-Jean, elle a dû recevoir en elle-même le corps de son fils, celui qu'elle avait porté dans son sein. Le voici maintenant qu'elle le reçoit sacramentellement. Alors demandons à la très sainte Vierge que chaque fois que nous recevons le corps du Christ, le corps de notre Seigneur, bien nous ayons les mêmes sentiments qui étaient dans le cœur immaculé de Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers catholiques genevois et des régions limitrophes, c'est une grande cérémonie aujourd'hui qui aura lieu en l'honneur du Saint-Sacrement, puisque nous allons cette année processionner sur le territoire même de la ville de Genève. C'est donc une grande grâce du bon Dieu. Mais pour cela, je vous supplierai de prier encore Padre Pio, qui, vous le savez, exauce volontiers les prières qu'on lui fait pour obtenir le beau temps quand il y a une nécessité grave. Or, la pluie menace toujours. Donc, si vous voulez bien, dans votre cœur, priez trois Ave Maria au Padre Pio pour qu'il supplie la Reine des Anges d'envoyer ses anges pour dissiper les nuages et nous préparer un temps favorable à la réussite de cette procession. Bien chers fidèles, je reprendrai volontiers un des textes de la liturgie que les prêtres récitent ce matin à l'aude, l'hymne de la fête du Saint-Sacrement, qui nous donne les idées centrales de cette magnifique fête qu'on appelle la fête de Dieu, la fête de Dieu, Dieu fait homme, Dieu devenu pain des hommes. C'est l'hymne de l'aude. C'est nascens dedit socium, convescens in edulium, se moriens in pretium, se regnans dat in premium. Je vous traduis. En naissant sur la terre, à Bethléem, donc, il s'est donné lui-même comme notre compagnon de voyage. Ensuite, se donnant à manger, le Jeudi Saint, il se donne en nourriture pour nos âmes. Ensuite, en mourant pour nous, pour nos péchés sur la croix, il se donne en prix, le prix de nos péchés. Son précieux sang est le prix versé pour nous racheter du péché. Et enfin, au ciel, dans l'éternité bienheureuse, il se donne en récompense à ses élus. Eh bien, voyez, ces quatre idées nous montrent bien ce qu'est le mystère de la Sainte Eucharistie. Dieu qui continue à être notre compagnon par la présence réelle, Dieu qui devient notre nourriture par la communion, Dieu qui est le prix de notre rachat par sa mort, qui est contenu dans la Sainte Eucharistie, par le Saint Sacrifice de la Messe, et enfin Dieu qui se donne au ciel en récompense éternelle, déjà préfiguré, dont nous avons déjà un avant-goût sur la terre dans la Sainte Communion. Et ainsi saint Thomas, en une seule petite strophe, vous voyez, de cet hymne des Laudes, eh bien, recouvre tout le mystère de la Sainte Eucharistie, comme est magnifique notre belle liturgie catholique. C'est nascens dedit socium. Il a voulu naître de la Vierge Marie, se faire homme, comme nous autres, en tout semblable à nous, sauf le péché. Mais en tout semblable à nous, sa nature humaine est une nature humaine véritable, avec un corps, une âme, comme la nôtre, mais pas de péché. Et ainsi est devenu notre compagnon de route. Et après sa mort, après son départ, après son ascension, il ne nous laisse pas orphelins, il nous envoie le Saint-Esprit, que nous avons fêté le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, il reste lui-même, personnellement, parmi nous, par la Sainte Eucharistie. Jésus est parmi nous. Il n'est pas seulement au ciel, il est aussi sur la terre, dans les espèces eucharistiques, dans la Sainte Hostie, au Saint-Tabernacle, quand vous venez chaque dimanche à la messe. Que venez-vous faire? D'abord, vous allez adorer Jésus réellement présent au Saint-Sacrement. Mon Dieu, je crois que vous êtes réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je vous adore et je vous aime. Voilà, c'est un acte d'adoration. Jésus est là, présent. Ce n'est pas du pain béni que nous allons promener tout à l'heure en procession. Non. Ce n'est pas du pain béni. C'est le corps et le sang du Fils de Dieu fait homme. Il est présent substantiellement. Bien sûr, on ne le voit pas. On ne voit pas sa sainte humanité comme pouvaient la voir les apôtres quand ils vivaient avec lui en Galilée ou en Judée. On ne voit plus Jésus tel qu'il est encore actuellement dans le ciel, avec son corps glorieux. On voit seulement ce qui le voile, n'est-ce pas, l'apparence du pain qui le voile. Mais derrière, notre foi ne nous trompe pas, c'est Jésus qui est là. Voilà la grande différence qui nous oppose aux frères séparés. À un certain moment, ils ont dit « Ce mystère est trop fort, qui pourrait le croire ?» Comme les Juifs autrefois. Quand Jésus disait « Je suis vraiment la nourriture, le pain descendu du ciel, comment peut-il donner son corps à manger ?» disaient les Juifs. Eh bien, les malheureux frères séparés disent pareil « Comment peut-il être à la fois présent au ciel et sur la terre ? C'est impossible. » Comment peut-il être présent avec le pain ou à la place du pain? Nous n'y croyons pas. Ce mystère est trop fort. Et oui, il est trop fort pour notre raison, mais avec la grâce de la foi, ce mystère n'est pas trop fort. La foi nous donne de pénétrer à travers le voile de la Sainte Hostie, et d'atteindre la réalité qui est derrière, qui est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, cette fête Dieu, c'est d'abord la fête de la présence réelle de notre Seigneur, de Dieu lui-même, parmi son peuple, dans le sacrement de l'autel. C'est pas le Dieu présent spirituellement dans l'assemblée en prière, comme disait l'introduction de la nouvelle messe, qui est donc d'esprit protestant. Dieu n'est pas seulement présent spirituellement dans l'assemblée en prière, non. Dans une église catholique, en principe, Jésus est présent, Dieu est présent dans la Sainte Hostie, au tabernacle. Et ce que nous allons transporter en procession, ce n'est pas du pain béni, ce n'est pas seulement un symbole, c'est la réalité, simplement voilée par le sacrement. Voilà. Ensuite, bien cher fidèle, saint Thomas continue sa contemplation de ce mystère. Il voit maintenant la mort de notre Seigneur, présente dans la Sainte Messe, bien entendu. Se moriens in pretium. Il voit notre Seigneur dans son agonie, notre Seigneur flagellé, il voit notre Seigneur crucifié. Il voit le précieux sang qui s'échappe des plaies de notre Seigneur sur la croix. Il voit le dernier soupir de Jésus sur la croix. Il voit enfin le soldat qui, avec sa lance, perce le côté de notre Seigneur, d'où il s'échappe du sang et de l'eau. Vous connaissez bien cela? C'est dans l'Évangile. Mais ce qui est dans l'Évangile, c'est aussi aujourd'hui parmi nous à la Sainte Messe. Eh oui. À chaque sainte messe, ce mystère de la passion de notre Seigneur est renouvelé d'une façon non sanglante. Bien sûr, on ne voit pas le sang de Jésus couler à la sainte messe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas mourir une seconde fois. Il est au ciel. Il ne peut pas mourir. Il est au ciel. Mais ce que l'on peut faire, ce que l'Église peut faire, ce que Jésus peut faire dans sa toute puissance, c'est de rendre présent, par évidemment un grand mystère, la passion qu'il y a eu à 2000 ans, la rendre présente parmi nous sous un signe, sous un sacrement. Voilà. À la messe, vous êtes comme si vous étiez au pied de la croix. Comme saint Jean et la très sainte Vierge au pied de la croix, chers fidèles, vous êtes au pied de la croix à la messe. La messe, c'est la reproduction, non sanglante, bien sûr, mais c'est un sacrifice, reproduction du sacrifice de la croix. Ce n'est pas un nouveau sacrifice, c'est le même sacrifice du calvaire présent. Voilà. Par le simple fait que le prêtre va consacrer séparément d'abord le pain et puis le vin. Le pain d'abord qui devient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est mon corps, n'est-ce pas? Et puis ensuite le prêtre prononce sur le calice du vin les paroles « Ceci est mon sang ». Ce n'est plus du vin, c'est le sang de Jésus. Et à ce moment-là, nous devons donc présents sur l'autel séparément, d'un côté le corps de notre Seigneur sous la Sainte Hostie, et de l'autre côté, le sang de notre Seigneur sous l'apparence du vin, séparé par les paroles. Les paroles du prêtre sont comme un glaive spirituel qui sépare le corps et le sang de Jésus, voilà. Qui opère donc un sacrifice, la séparation du corps de Jésus. C'est un sacrifice, c'est le même sacrifice que le sacrifice de la croix. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. La séparation du corps et du sang qui a eu lieu à la croix, elle est là représentée, rendue présente sous des signes sensibles, mais quelque chose de réel à la messe. Simplement, vous le savez bien sûr, que sous chacune des chaque espèce, il y a non seulement le corps, mais aussi le sang, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Derrière l'hostie, derrière l'apparence du pain, il y a non seulement le corps, mais aussi le sang et la divinité et l'âme de Jésus. De même, derrière l'apparence du vin, il y a le sang, le corps, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est un tout, on ne peut pas le diviser. Tel qu'il est au ciel actuellement, vous ne pouvez pas le diviser. Mais il n'empêche qu'en vertu des paroles du prêtre, ce qui est présent directement par les paroles du prêtre, c'est derrière l'apparence du pain, c'est le corps de Jésus, et derrière l'apparence du vin, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a une séparation sacramentelle du corps et du sang de Jésus. Voilà. Eh bien, c'est cela, la reproduction non sanglante du sacrifice du calvaire. Alors, nous croyons cela. Justement, nos frères séparés n'y croient pas. À un moment donné, ils ont dit « c'est trop fort ». Et ils n'ont pas voulu croire, ils n'ont plus voulu croire que Jésus était vraiment immolé, de façon sacramentelle, bien entendu, à la messe. Que la messe est un sacrifice pour expier nos péchés. Que à la messe, la passion de Jésus est appliquée à nos âmes pour les laver de nos péchés. Voilà la foi catholique. Ensuite, la communion. Convescens in edulium, dit saint Thomas, se mettant à table avec les disciples, à la scène, il s'est donné en nourriture. Non seulement il va s'immoler le vendredi saint, mais il va donner cette chair en nourriture à ses disciples. Oui, je suis le vrai pain, le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Si vous ne mangez le corps et le sang du Fils de l'homme, la chair et le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Voilà, le pain de vie, Jésus est le pain de vie, sa chair est vraiment une nourriture, son sang est vraiment un breuvage. Nous croyons cela, c'est la Sainte Communion. Jésus te donne en nourriture à notre âme. Et cette nourriture, comme dit saint Augustin, qui l'explique, à la différence des nourritures terrestres, des nourritures que nous mangeons tous les jours, qui deviennent notre corps, que nous transformons en nous-mêmes, c'est le contraire, c'est nous qui sommes transformés en Jésus. Par la sainte communion, nous devenons un autre Jésus. Voilà. Quel mystère! Bien sûr, nous restons un homme, nous restons une petite créature du bon Dieu, bien entendu, mais spirituellement, nous sommes transformés en Jésus-Christ. Un chrétien qui communie est transformé de plus en plus en notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion. Voilà encore le troisième volet de notre contemplation sur la fête de Dieu, sur le mystère du Saint-Sacrement. Et puis enfin, dernier volet de ce grand mystère, c'est le ciel, les bienheureux du ciel, qui eux aussi communient tous les jours. Ils mangent le pain des anges. Nous mangeons la sainte hostie, la recevons sur la langue. Eux, ils la mangent spirituellement, en contemplant Dieu, face à face. Ils ont la réalité. Face à face, nous avons seulement le sacrement. Jésus est encore caché, Dieu se cache encore, nous le recevons, bien sûr, dans notre âme, mais il est encore caché par le voile de la Sainte Hostie. Au ciel, le voile s'est déchiré, les bienheureux voient Dieu face à face, ils communient tous les jours, en mangeant le bon Dieu, on peut bien dire spirituellement. Alors songeons à cela chaque fois que nous venons communier. Nous sommes en union avec tous ces bienheureux du ciel qui nous ont précédés au ciel, qui nous attendent avec un grand désir de nous voir un jour, nous aussi, aller au ciel. Voyez, quand nous communions, nous sommes en communion avec tous les saints du paradis. Avec nos grands-parents, avec nos parrains et marraines de baptême qui sont déjà peut-être au ciel. Voyez, avec tel ou tel saint prêtre qui nous a préparés à la sainte communion, avec Monseigneur Lefebvre, avec tous ceux que nous aimons, qui sont auprès du bon Dieu, qui communient tous les jours spirituellement, eh bien, à la table de communion, nous partageons ce mystère. Nous sommes non seulement unis à Dieu, mais à tous les bienheureux de la cour céleste. Quelle merveille de pouvoir communier. Simplement, eux, ils le voient, Dieu, nous y croyons. Nous sommes obligés d'y croire encore. Mais après que le voile se sera déchiré, n'est-ce pas, nous verrons Dieu face à face. Voilà, bien chers fidèles, ce grand mystère de la Sainte Eucharistie, du Saint-Sacrement de l'autel que nous fêtons aujourd'hui. Et après la Sainte Messe, nous irons donc en procession. Nous franchirons les ponts, cette fois-ci, pour aller sur le territoire de la ville de Genève, cette ville qui est encore officiellement séparée de l'unité catholique, vous le savez, depuis la Réforme, il y a bien longtemps. Et ce sera donc la première procession sur le territoire même de la ville de Genève, la première procession du Saint-Sacrement, je ne pense pas me tromper, depuis la Réforme, depuis que le 30 mai 1585, non, 1535, 30 mai 1535, les gouvernants de la ville de Genève prirent cette décision d'interdire la procession de la fête-dieu sur tout le territoire de la ville. Donc si bien que la dernière procession qui eut lieu à Genève, c'était en mai ou en juin 1534. Et donc, il y a donc 460 ans, aujourd'hui, 460 ans, où Dieu n'avait pas le droit de venir dans la ville. Voilà. Donc c'est une grande grâce, c'est un grand honneur pour nous, voyez, que nous n'avons pas mérité, honneur tout à fait immérité, mais ressentons bien cet honneur que le bon Dieu nous fait de porter nous-mêmes le Saint-Sacrement dans cette ville qui est encore malheureusement, qui gémit encore dans l'erreur. Et nous supplierons donc le Jésus Eucharistie de convertir, bien sûr, nos frères séparés par la grâce de cette procession. Nous prierons Jésus Hostie aussi de faire de chacun de nous des âmes eucharistiques, des âmes fidèles, adorantes, aimantes de ce mystère de l'autel, des âmes qui viennent souvent à l'église, ici à l'oratoire Saint-Joseph, en semaine pour la messe, pour venir silencieusement adorer Jésus Hostie présent à l'autel, pour réparer pour tous les sacrilèges, pour tout le laïcisme, pour toute l'apostasie de la foi catholique, bien sûr, pour réparer pour ses péchés. Comment voulez-vous que ces malheureux se convertissent s'il n'y a pas des âmes qui expient le péché contre la foi? Alors venons, prenons cette résolution, venons souvent ici à l'oratoire Saint-Joseph, en ce petit havre catholique, vraiment, sur cette terre un petit peu désolée, aride, bien sûr, afin que, à nouveau, Jésus rayonne publiquement dans cette ville qui vous est chère, bien fidèle Genevois, et qu'il soit adoré, que se produise cette grande conversion que nous attendons, pour laquelle nous prions, bien sûr. Confions toutes ces intentions à Notre-Dame, à la mère du prêtre éternel, afin que ce soit sous son manteau protecteur que se distribuent toutes ces grâces qui seront toucher les cœurs de vos chers concitoyens. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Cher Monsieur le Président, cher Monsieur le Président, cher Monsieur le Président, c'est pour moi une grande joie, mon cher fidèle, de venir aujourd'hui dans votre belle église, Notre-Dame de Ripente, pour donner le sacrement de confirmation à vos chers enfants. Ici, vous avez une magnifique qui, vous le savez, est un catholique au départ, qui est devenue catholique, qui passe à la paternité Saint-Louis. Donc, c'est un symbole de la victoire de la foi catholique sur l'Église. Il faut bien parler, surtout à l'heure actuelle de l'hérésie du combat pour la foi. Le chrétien est un combattant de la foi. Et c'est pourquoi, mes chers enfants, chers confirmants de tous les âges, des petits comme des grands, vous allez aujourd'hui recevoir le sacrement de confirmation qui va vous confirmer, vous fortifier dans la foi catholique. Et c'est pour cela. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez me dire peut-être, mais nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. C'est une question que j'aurais pu vous poser tout à l'heure. Mais quand avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Et vous m'auriez répondu certainement, mais le jour de notre baptême. Vous nous avons été baptisés par votre aide, qui versait l'eau sur le front. Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles du prêtre pour vous donner le sacrement de baptême. Et donc, au jour du baptême, certainement, vous avez reçu les trois personnes divines. Les trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont descendues invisiblement dans votre âme le jour du baptême. Et ce n'est pas une vérité ignorée, mais par les premiers chrétiens. C'était une vérité très familière aux premiers chrétiens, qui savaient bien qu'un chrétien baptisé est habité par Dieu, par la Sainte Trinité. Saint Paul leur rappelait, ne savez-vous pas, dit-il, à ces nouveaux chrétiens qui avaient été baptisés, ne savez-vous pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Nous sommes un temple du Saint-Esprit, pas de la peine. Oui, cette belle église est un magnifique temple de Dieu. Tout à l'heure, aura lieu la Sainte Messe. L'église est maintenant le temple du bon Dieu. Eh bien, votre âme, cher confinement, par le baptême, déjà, est un temple. Dieu habite dans notre âme. Donc ne profane pas la grâce divine qui est dans votre cœur. Ne souillez pas votre âme par le péché mortel. C'est ça qu'il faut rappeler aujourd'hui. Saint Paul le rappelait au premier chrétien. Vous êtes baptisé, Dieu habite en vous. Ne faites pas fuir Dieu par le péché. Surtout par le péché mortel. Le péché mortel qui tue la grâce divine en nous, qui chasse le bon Dieu, et c'est le démon qui est à sa place. Au contraire, dans l'âme qui reste en état de grâce, qui se confesse régulièrement pour entretenir en elle la grâce, ou pour revenir à la grâce si jamais elle a eu le malheur de penser Dieu par un péché mortel, dans cette âme qui va se confesser régulièrement, la grâce divine est entretenue, la flamme de la grâce est entretenue. Alors c'est un combat. Il faut se combattre. Vous êtes plus des enfants, mais maintenant vous êtes devenus des adultes, ou vous êtes déjà des adultes. Vous avez besoin d'une nouvelle abondance du Saint-Esprit. Parce qu'un enfant, vous savez bien, doit se laisser former par ses parents, par les prêtres, il reçoit le catéchisme, il reçoit l'enseignement de la doctrine chrétienne. Mais un adulte, ce n'est plus un enfant, un adulte doit témoigner de sa foi, doit répandre autour de lui sa foi, et bientôt s'il se marie, il aura des enfants, il devra donc communiquer la foi catholique à ses enfants. Et donc, pour professer publiquement la foi catholique, il faut une nouvelle abondance du Saint-Esprit. Et pour cela, l'Église nous donne le sacrement de confirmation, un des sept sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la confirmation vous donnera deux choses. C'est une autre question que j'aurais pu vous poser tout à l'heure, vous m'auriez répondu. Bien oui, la confirmation nous donne la grâce et le caractère du sacrement de confirmation. Qu'est-ce que le caractère du sacrement de confirmation? C'est une marque, un signe invisible, imprimé dans l'âme, par le sacrement. Ça ne se voit pas, c'est invisible, c'est surnaturel, c'est une marque, un sceau, hein, en latin c'est sigillum, comme le cachet dans la cire, un peu sceau imprimé dans la cire, qui laisse sa marque. Eh bien, la confirmation laisse votre marque pour toujours. La marque du Saint-Esprit pour toujours. Les élus du ciel, et même les malheureux en enfer, ils restent baptisés, confirmés pour toujours. Mais il ne s'agit pas d'aller en enfer, justement, il s'agit de combattre pour ne pas aller en enfer. C'est pourquoi Jésus vous marque donc avec le Saint-Esprit du sceau du Saint-Esprit. Vous êtes la possession du Saint-Esprit. Vous avez un insigne invisible, un petit peu comme les croisés portent un signe de la croisade eucharistique, bien visible, pour témoigner qu'ils sont membres de la croisade eucharistique. Ou de même qu'en tête d'une procession, on trouve le porte-croix, celui qui porte la croix, qui marche en tête de la procession. Ou de même que dans une armée en paix, en principe, il y a les tambours, puis les drapeaux. qui sont le signe de la nation pour laquelle la guerre est menée, de même, je dirais, le confirmé porte dans son âme un insigne invisible qui est l'insigne du Christ. Vous êtes les porte-drapeaux de notre Seigneur Jésus-Christ, un peu comme dans une guerre, puisque vous allez devoir combattre le bon combat de la foi. Alors soyez fiers aujourd'hui d'être marqués pour le Saint-Esprit, pour toujours. N'êtes plus comme les autres chrétiens, c'est un chrétien confirmé. Ensuite, cette confirmation vous donne la grâce, une augmentation de la grâce sanctifiante du baptême, une augmentation de cette grâce avec une abondance nouvelle des sept dons du Saint-Esprit. Sept dons du Saint-Esprit, vous le savez, la sagesse, l'intelligence, la science, la piété, le conseil, la force et la crainte de Dieu. Si je pourrais prendre quelques exemples, si vous voulez, dans la vie des saints, pour illustrer l'importance des sept dons du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Les vertus ne suffisent pas. La foi, l'espérance et la charité, c'est très beau, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Jésus nous donne, en plus, les sept dons du Saint-Esprit, pour nous rendre très dociles aux inspirations divines, pour nous rendre sensibles aux inspirations du Saint-Esprit. De cette manière, par les dons du Saint-Esprit, nous serons mus, nous serons mis en mouvement par le Saint-Esprit lui-même. Il suffira d'être bien docile. Comme le marin sur le bateau, il déploie grand ses voiles pour que le vent souffle et emporte le bateau au large. C'est une image qui nous fait représenter les dons du Saint-Esprit. Ils sont comme cette docilité surnaturelle à Dieu qui nous aide à aller au large dans la vie chrétienne. D'abord, le don de sagesse qui nous rend capables de goûter les choses de Dieu. La sagesse, goûter les choses de Dieu, comme par connaturalité. Le chrétien, tout naturellement, se trouve bien à l'Église. Quand on lui parle de notre Seigneur Jésus-Christ, il est tout content, tout heureux. Voyez son visage sourire. Au contraire, le païen, lui parler de Dieu, son visage reste triste, fermé. Il n'a pas besoin de sagesse. Il n'y a pas cette parenté, cette familiarité avec Dieu que donne le don de sagesse. Par le don de sagesse, vous sentez que vous êtes de la famille du bon Dieu. Oui, c'est ça le don de sagesse. Ensuite, le don de la Sainte Vierge était par excellence comblé du don de sagesse. Puisque le jour de l'Annonciation, quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va devenir la mère du Sauveur, alors, eh bien, elle comprend un petit peu ce grand mystère et elle accepte ce grand mystère. Voici la servante du Seigneur. Elle entre dans les plans divins. Elle comprend qu'elle est dans la famille du bon Dieu et dans cette famille de Dieu, elle aura un très grand rôle à jouer. Elle devine le rôle qu'elle va jouer. Mère de Dieu et mère de tous les chrétiens. Alors vous, chrétiens, confirmez, vous comprendrez votre rôle dans l'Église, la place que vous avez dans l'Église, dans votre plus grand état. Quelle grande chose vous pourrez faire pour l'Église. C'est le don de sagesse. Don d'intelligence, c'est le don qui nous fait pénétrer dans les mystères, au-delà de la surface un peu aride des mystères. Quand on nous dit, par exemple, que Dieu est un Dieu en trois personnes, oui, un Dieu unique en trois personnes, et puis c'est tout. Nous pouvons apprendre tout sur ce grand mystère de la Trinité sainte. Mais le don d'intelligence, cela nous fait pénétrer un petit peu dans ce grand mystère, et nous fait découvrir des choses que nous ne comprenons pas tout de suite. L'exemple par typique du don d'intelligence donné par saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, qui est dirigé d'une sorte de théologie, et vers la fin de sa vie, un de ses disciples disait, mais maître, où avez-vous puisé cette intelligence que vous avez, des mystères que vous écrivez si bien dans votre théologie? Et saint Thomas montrait son crucifix. comme pour dire, c'est à cette école, à l'école de la croix, que j'ai compris, que j'ai reçu l'intelligence du bon Dieu, l'intelligence des mystères divins. Alors, à l'école de la croix, à l'école du Saint-Esprit, vous recevez aussi cette intelligence. Mais pas comme les païens qui sont sans intelligence, qui ne comprennent rien aux choses de Dieu. Le chrétien confirmé, au contraire, comprend. Et pour pénétrer en profondeur les mystères de Dieu, mystère d'incarnation, mystère du Fils de Dieu devenu homme, mystère de la rédemption, mystère de notre Seigneur mourant sur la croix pour effacer nos péchés. Voilà. Le chrétien comprend cela par le don d'intelligence. Ensuite, le don de science qui nous fait aimer Dieu à travers le miroir des créatures. Le ciel bleu, les belles montagnes nuageuses, l'immensité de l'océan. Et si vous voyez la vie de Saint-François d'Assise, il était saisi par les créatures qui étaient pour lui un miroir du bon Dieu. Il contemplait Dieu dans les créatures. C'est le don de science. Pas les sciences que vous apprenez à l'école, bien entendu. C'est une science qui est une science toute surnaturelle. Voir la belle chose de la nature créée, ça vous fait penser à Dieu. Vous élevez votre cœur à partir des créatures vers Dieu par le don de science. Et puis aussi, le don de science vous aidera à mépriser les créatures trompeuses, l'argent, les richesses, les honneurs, voyez, tout ce qui peut nous détourner de Dieu, à mépriser tout cela pour vous attacher à Dieu seul. C'est le don de science. C'est devant la science que toutes ces choses du monde ne valent rien devant Dieu. Toutes les beautés du monde ne sont rien devant Dieu. Toutes les richesses de la terre ne valent rien devant un seul arbre. Ça, c'est le don de science qui vous le dit. Ensuite, le don de conseil qui vous souffle ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter pour aller au ciel. Le conseil, Dieu vous conseille. Puis vous serez capable de donner le bon conseil. Que vous serez rempli du don de conseil. Alors on vous demandera et vous répondrez. Comme Saint Jean d'Arc. Et un jour, ces juges qui allaient la condamner à être brûlés, vous le savez, lui posaient cette question. Mais Jean, êtes-vous en état de grâce? C'est une question trompeuse. C'est une question pleine de pièges. Que si elle disait « Oui, je suis en état de grâce », on aurait dit « Vous êtes une orgueilleuse, vous n'en savez rien ». Alors elle répond, pleine du don de conseil, elle trouve la réponse juste tout de suite. Elle répond à ses juges « Si j'y suis, Dieu m'y garde, si je ne suis pas, Dieu m'y mette ». Voilà, tout simple. Si je n'ai pas la grâce, Dieu me la donne, si je ne peux plus, Dieu me la garde. Elle a trouvé tout de suite la bonne réponse parce qu'elle avait le don de conseil. Elle était docile à la voix du bon Dieu qui lui parlait. Ensuite, le don de piété qui nous fait prier, bien entendu, qui nous fait désirer venir à l'église chaque dimanche pour assister à la messe. Et si possible, à la vraie messe, toujours, la belle messe traditionnelle en latin, où nous puisons tant de grâce, où les mystères du bon Dieu nous sont exprimés d'une façon si belle, si magnifique. Le don de piété nous aide à prier. Le don de piété met sur nos lèvres les paroles, toutes simples, des prières que nous n'avons pas apprises par cœur, qui mouvent du cœur vers le bon Dieu. C'est le don de piété qui prie par notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui prie par notre cœur. Le don de piété aussi vous aide à lutter pour défendre l'honneur du bon Dieu. C'est ce qu'on appelle la piété filiale. Un enfant qui respecte son père et sa mère. Elle-même, l'enfant de Dieu respecte son père du ciel et sa maman céleste. Ce qu'on appelle la piété filiale. Et le don de piété vous aidera à défendre l'honneur de Jésus et le nom de Dieu. Quand on vous dira devant vous de vilaines choses contre la très sainte Vierge, vous serez rempli d'indignation et vous direz tais-toi, on ne dit pas de vilaines choses sur la très sainte Vierge, par exemple. Ou bien, si on dit de vilaines choses sur notre Seigneur, en disant que notre Seigneur Jésus-Christ est seulement homme, il n'est pas Dieu, par exemple, ou qu'il n'est pas vraiment ressuscité, bien, on se rend une sainte colère, oui, on peut bien dire ça. ça. C'est le monde de piété. Il vous remplira du saint colère pour clouer le bec, je dirais, à ceux qui toujours des choses qui blasphèment ce que vous avez. Un petit peu comme Monseigneur le Prêtre en 86, à Assise, avec le pape avait convoqué toutes les fausses religions pour faire un culte avec les fausses religions, et bien seul Monseigneur le Prêtre avait osé lever la voix en disant très inverse, ça ne se fait pas. C'est un blasphème. Vous réunissez les adorateurs de Mahomet, de Bouddha et du grand esprit, et bien c'est faux, parce que cela ne croit pas dans le vrai Dieu. On n'a pas le droit de les réunir avec les catholiques, parce qu'ils ne font pas une prière adressée au vrai Dieu. Voilà. Vous voyez, un évêque qui a eu le courage d'en rencontrer au pape. Ça se trouve. C'est pas la première fois dans l'Église. Et Mgr Père a été rendu du don de piété. Dénonce l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on voulait mettre sur le même rang avec les faux dieux. C'est pas permis. Notre Seigneur est le vrai Dieu avec son Père et Saint-Esprit. Bouddha n'est pas un vrai Dieu. Mahomet n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu des chrétiens. Le don de piété vous aidera à mener ce combat pour défendre l'honneur de Dieu, l'honneur de Jésus. Ensuite, le don de force. Vous questionnez tout à l'heure le don de force. Pour mener le bon combat, il faut être fort. Il faut résister aux tentations du diable qui peut nous entraîner en enfer. C'est le don de force qui est si important à l'heure actuelle. Comme un exemple, dans l'Église primitive, vous voyez, un exemple du 4e siècle, Saint Athanase, évêque d'Alexandrie, eh bien, tout le monde devenait hérétique, tout le monde disait que le Fils de Dieu n'est pas vraiment Dieu. C'est ça, hérésie arienne. Jésus-Christ n'était pas vraiment Dieu. Il était seulement semblable à Dieu. Semblable à Dieu. Mais il n'était pas vraiment Dieu. La Saint Athanase, plein de force, mais le don de force, a osé s'élever et dire, même si je suis seul évêque catholique, je reste catholique. Et jamais je ne signerai une hérésie. Jamais je n'accepterai de signer que le Fils de Dieu n'est pas vraiment Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il fut puni, chassé de sa ville épiscopale et relégué dans le désert. Voilà. Il est obligé de fuir dans le désert. Parce qu'il était fort dans la foi. Il a dû souffrir pour sa foi. Et même, il a été excommunié par le pape. Le pape Libère, qui était faible, lui, disait, que Jésus soit semblable à Dieu, parce que c'est pas si grave. Il signait une hérésie. Et Athanase, il avait dit, Saint Athanase, il avait dit, non, mais pas moi. Et bien, le pape a excommunié Saint Athanase. Il a chassé de lui. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous savez bien que les évêques sont excommuniés parce qu'il y a la foi catholique. C'est un exemple. Ce n'est pas la première fois qu'on arrive dans l'Église. Alors, mes chers enfants, vous allez devoir mener un combat pour la foi. Ne pouvez pas vous dire d'être chrétien. Vous devez dire, si on dit des telles choses ou des choses fausses sur la foi, vous devez protester publiquement. Vous êtes témoin du Jésus. Si autour de vous on dit des hérésies, vous direz non, pas trop à ça, parce que vous avez le don de la force. Enfin, le don de crainte de Dieu, le 7e n'est pas le plus petit, au contraire, c'est le plus important, la crainte de Dieu, qui nous fait craindre une seule chose sur la terre, d'offenser Dieu par le péché. Le chrétien ne craint rien, sauf une seule chose, faire un péché. Ça, on le craint. Parce qu'on craint Dieu, qui est si beau, qui est offensé par le péché. On craint donc d'offenser Dieu. De faire de la peine à notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Puis on craint d'aller en enfer. Et oui, c'est la crainte de Dieu. Le nombre de craintes vous aidera à ne pas tomber dans le péché. Alors, mes chers enfants, vous avez donc sept armes, sept dons du Saint-Esprit qui sont comme des sept armes de l'armure de chevalier que vous allez revêtir aujourd'hui. Vous allez devenir des chevaliers, des soldats de Jésus-Christ. Vous êtes cette armure comme les chevaliers du Moyen-Âge. Mais il y a sept armes dans cette armure, les sept dons du Saint-Esprit. Et vous allez mener le combat qui est un combat pour la foi, sûrement, et aussi, je dirais, pour la veille des vertus de pureté, de chasteté, si vivantes aujourd'hui, si méprisées aujourd'hui. Autant de jeunes sont dans le péché d'impureté. Et même les adultes, ils ne sont pas en ordre avec les saints du roi du mariage. Ils ne vivent pas dans l'état de grâce. Alors vous, mes chers enfants, vous demandez cette grâce de participer dans ce vilain péché, l'impureté, et de lutter comme des soldats courageux. Et vous prendrez l'exemple des premiers chrétiens, les saintes Agnès, Lucie, Cécile, Agathe, que nous honorons sous le double nom de Vierge et de Martyr. Elles sont martyres parce qu'elles ont fait seul à verser leur sang pour Jésus-Christ. Mais elles sont aussi vierges, comme la Sainte Vierge. La Sainte Vierge était vierge, parce qu'elle avait consacré son corps et son âme au bon Dieu. Elle avait renoncé au mariage, elle avait renoncé donc au plaisir de la chair, ce qu'on appelle la virginité. Et à toutes ces braves filles, on voulait les forcer à se marier avec des païens. C'était un double péché. Se marier avec un païen, c'était très grave, très mauvais. Et puis, surtout, elles avaient voué, promis leur virginité à Dieu. Donc elles ne voulaient pas se marier. Elles voulaient rester célibataires, consacrées au bon Dieu. Eh bien, elles sont mortes, elles ont accepté de mourir plutôt que de souiller leur âme et leur corps. Voilà. Un bel exemple de la vertu de chasteté. Que le Saint-Esprit vous aidera dans le sens à observer. Plus près de nous, Saint Maria Goretti, qui est en Italie, il n'y a pas longtemps, qui est morte aussi, parce qu'elle n'a pas consenti à commettre un péché d'impureté. Voilà. Elle est morte. Sous la violence. Elle a accepté de donner son âme à Dieu pour témoigner de cette belle vertu chrétienne. Vertu de chasteté. Quel exemple. Et puis le combat de la foi, bien entendu, qui est de rester catholique, ou pas devenir moderniste, ou protestant, ou que sais-je, ne pas apostasier. Ce que veut dire apostasier, ça veut dire tout lâcher, tout abandonner. Voilà. Du jour au lendemain, on dit je ne suis plus chrétien, je ne parle plus à Dieu, je n'ai plus à la messe. Voilà. Ce sont des apostats, c'est abominable. Alors, vous allez mener ce combat pour ne pas apostasier. Au contraire, pour convertir les autres, pour les intégrer, pour les faire revenir à la foi catholique dans vos familles, dans vos amis. Vous êtes les témoins de Jésus-Christ. C'est à vous maintenant d'être missionnaire, mes chers enfants. C'est pas seulement le prêtre qui est un missionnaire, mais c'est le chrétien qui vit, témoin de Jésus, qui est missionnaire, qui porte dans son milieu, dans sa famille. Parmi ses amis, attirer beaucoup d'autres pour qu'ils reviennent à la pratique catholique, à la foi catholique. Voilà, mes bien chers enfants, dans quelques instants, le prêtre, l'évêque va étendre les mains pour invoquer le Saint-Esprit, et ensuite, il posera la main sur votre tête, et avec le pouce, marquera le signe de croix sur votre front avec le Saint-Crève. Le signe de la croix, pour vous souvenir que vous êtes marqué par la croix de notre Seigneur, que Jésus vous aidera à porter votre croix du jour de votre vie, que les épreuves pour les chrétiens, c'est normal, c'est au programme, et bon, on ne va pas pleurer parce qu'on a apporté quelques petites croix. Et puis, avec le Saint-Crème, qui est l'huile sainte, ici par l'hiver, le jeudi saint, qui va pénétrer dans votre front pour signifier la grâce du Saint-Esprit qui pénètre invisiblement dans votre âme. Ensuite, l'évêque vous donnera avec la main un coup sur la joue, comme les chevaliers au Moyen-Âge, pour éprouver votre fermeté dans la foi. Voilà. Et pour vous prévenir que vous aurez à souffrir des outrages, des souffrances pour la foi. Et donc, que vous devez rester ferme dans la foi. Afin que ni la honte, ni la crainte ne fassent rougir ou pâlir votre front. Voilà, mes chers enfants, invoquons la très sainte Vierge, la reine de tous les saints, celle qui a rendu tous les dons du Saint-Esprit, pour qu'elle soit la médiatrice aujourd'hui, que par sa médiation, par son intermédiaire, par sa prière, vous recevez une grande abondance des sept dons du Saint-Esprit, qui vous fortifie, qui vous garde fidèle et fier soldat et témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Pour le Père et le Fils.